Bonjour à tous. Retour aujourd'hui dans une autre maison. Cette maison qui est d'abord la vôtre, la maison de la radio. Retour en studio et en direct aujourd'hui avec Benjamin Hu à la réalisation et Alex Dang à la technique pour déconfiner doucement mais sûrement votre magazine du midi. Une petite grande table qui revoit le jour sans son journal de midi 30, sans sa partie idée, mais tout en culture jusqu'à midi et demi. Toute la semaine, nous allons donner la parole à de grandes voix de la littérature mondiale et donc commencer par prendre des nouvelles de nos voisins, Philippe Sands, Christina Comencini, Edgar Keret ou encore Scholastique Mukasanga, en partenariat avec les Assises internationales du roman, une édition virtuelle cette année sur le thème de l'incertitude. On ouvre aujourd'hui avec notre voisin espagnol, pays durement touché par l'épidémie, qui a connu l'un des confinements les plus stricts, et notre premier invité, l'auteur catalan des Soldats de Salamine et du Monarque des Ombres, publié chez Actes Sud, Javier Cercas.
La grande table. Olivia Gesbert.
68e lauréat du prix Planeta à l'automne dernier, prix de la littérature en langue espagnole pour son dernier roman Terra Alta, sorti en novembre dernier donc, mais non encore traduit en France, une enquête en Catalogne après les attentats meurtriers d'août 2017. Bonjour Javier Cercas.
Bonjour, comment ça va?
Bah, ça va bien, et vous surtout, comment allez-vous?
Oui, je suis bien, je suis ici près de la frontière française dans un tout petit village, du côté catalan, dans un tout petit village où je passe la moitié de l'année. Je suis bien, ma famille est bien, mais bon, la situation c'est un peu comme en France, c'est très étrange. Mais non, je suis bien, je suis confiné comme tout le monde et dans une situation je crois que la parole aujourd'hui c'est incertitude. Partout, non?
Oui.
Et l'incertitude crée la peur. Et la peur, c'est très dangereux. C'est les compagnons plus dangereux du monde. Mais bon, c'est notre situation.
L'incertitude ne peut jamais créer de l'espoir pour vous? Il n'y a pas le sentiment aussi d'un avant et d'un après, de quelque chose qui peut changer aujourd'hui?
L'incertitude, c'est... Oui, l'espoir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'on ne sait rien. Ça serait notre situation. C'est-à-dire, pas seulement un écrivain comme moi, c'est tout simplement un romancier, mais les épidémiologues ne savent pas rien. Les économistes. Cette situation, c'est pas inédite, strictement, parce qu'évidemment, dans l'histoire, il y a eu des pandémies, des épidémies comme cette-ci, terrible, non, beaucoup plus dure que cette. Mais en même temps, si, c'est vrai que c'est inédit le fait de cet arrêt total, non? Le fait que le monde, pendant quelques semaines, quelques mois, semble complètement paralysé. Ça, c'est une chose complètement inédite. Et on ne sait pas. Espoir, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Je ne pense pas, comme j'écoutais, qu'on sera plus solidaire. Plus solidaire après cette crise, plus bonne personne, tout ça, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il faut sortir et que je ne crois pas que notre monde changera totalement parce que les hommes ont souffert ces épidémies et n'ont pas changé. Et c'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup des choses de cette situation, ah, absolument. Mais la question, ce sera si on les apprendra vraiment ou non. Et je ne suis pas optimiste.
On a l'impression que vous êtes passé, vous, Javier Cercas, par plusieurs états durant ces deux mois de confinement, très strict, je le rappelais, en Espagne. Alors vous vous êtes mis au vert hein, pour une partie de ce confinement. Est-ce que vous avez tenu, vous, votre journal durant cette période, comme beaucoup d'écrivains l'ont fait? Certains se sont fait d'ailleurs critiquer pour cela. Est-ce que vous avez eu besoin de prendre des notes, d'essayer de consigner ce moment?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je crois que la situation de l'écrivain, c'est un peu étrange, c'est vrai, dans ces jours. J'ai écouté beaucoup de mes collègues dire espagnol, au moins, et pas seulement espagnol, dire que pour nous, les écrivains, ce confinement, c'est moins dur, disons, que pour les gens, que pour les autres gens. Et je suis d'accord. Finalement, notre vie, c'est une vie de confinement, c'est-à-dire... qu'est-ce que fait un écrivain? Un écrivain est dans sa maison, il écrit, il lit, il pense au noir, c'est vrai. Et c'est, alors, ma vie, je dirais que si ça n'est. Ça, c'est vraiment une catastrophe collective. C'est énorme. On ne sait pas la dimension encore. Mais s'il n'était pas une catastrophe collective, moi, aurait été, en certain sens, une bénédiction personnelle. Parce que je cancelais mes voyages, j'ai tout le temps pour écrire, j'ai tout le temps pour lire, que c'est ma vocation. C'est vrai que ce n'est pas la même chose d'être confiné par vocation et par plaisir et parce que c'est ton métier que qu'être confiné par obligation et qu'être confiné avec des gens qui ne sont pas comme ma famille, par exemple, qui n'est pas habitué à cette situation. Mais je crois que c'est vrai que pour les écrivains, c'est une situation plus facile, disons, de vivre. Je n'ai jamais fait un journal, non, pas du tout. Non. Je suis en train d'écrire un roman, j'étais en train d'écrire ce roman, j'étais en train de lire et c'est tout.
Mais vous avez peut-être lu celui des autres. Le journaliste et poète Antonio Lucas, espagnol comme vous, a tenu son journal du confinement, lui, dans El Mundo. Il a fait paraître récemment un recueil de poésie. Si on traduit en français, il est titré « Les dénudés ». Il expliquait, Antonio Lucas, cette définition qu'il a donnée à ce titre de son recueil. « Les nus sont ceux qui, à un moment donné, voient et ressentent en quelque sorte la fragilité de notre condition. Est-ce que vous, Javier Cercas, durant ce confinement, vous avez aussi ressenti ce sentiment de mise à nu?
Je crois que tout le monde a senti ça. C'est-à-dire, on croyait avec un optimisme téméraire que nous étions protégés par la science, par la technologie, par le progrès de cette sorte de virus, de cette sorte de pandémie, pour nous était une chose, pour notre imagination aujourd'hui, était une chose comme médiévale, non? Une chose qui était finie. Et on a découvert aujourd'hui notre fragilité totale. Et je crois que ce n'est pas seulement Antonio Lucas ou moi-même qui a senti, ou les écrivains qui ont senti ça. C'est un peu tout le monde, non? Et c'est terrible qu'on a oublié énormément ça. C'est-à-dire, vous pensez, je ne sais pas si en France on parle de la grippe espagnole. La grippe espagnole, ça a été une épidémie qui était universelle, une pandémie, en fait, au commencement du siècle, contemporain de la Première Guerre mondiale, en fait, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et elle a tué, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça s'appelait la grippe espagnole, mais en Espagne, ça s'appelle la grippe espagnole, ce n'est pas en France. Mais elle a tué plus de 50 millions de personnes. Plus de 50 millions, c'est-à-dire beaucoup plus de personnes que la Première Guerre mondiale ou même que la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a été une expérience terrible. Ça a été la dernière grande pandémie, je crois, de l'histoire, non? Et beaucoup plus beaucoup pire que cette pandémie d'aujourd'hui. Et on a oublié complètement ça. C'est-à-dire, on se souvient aujourd'hui de ça, je ne sais pas pourquoi, bon, parce que nous sommes dans une situation similaire, moins grave, mais on a oublié complètement ça. Et si on pense par exemple à les traces que cette terrible pandémie a laissées dans la littérature, ce sont très faibles. Je vais penser à certains passages de certains romans, comme par exemple Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, ou certains vers de T.S. Eliot de Wasteland, ou un grand livre de la littérature catalane en catalan qui s'appelle le Quadern Gris, le cahier gris qui vient d'être publié en France. Mais je ne suis capable de penser à des traces directes qui cette terrible, j'insiste, pandémie a laissé au monde, au moins dans la littérature. Et même au même temps, je dois dire une chose que c'est un peu incommode et peut-être laide, mais la vérité, c'est souvent incommode et laide. C'est pourquoi beaucoup de gens qui préfèrent les mensonges. La vérité, c'est que souvent, ce qui est bon pour la vie, c'est mauvais pour la littérature. Et au contraire, ce qui est mauvais pour la vie, c'est bon pour la littérature. C'est-à-dire, la félicité, c'est muette. Et dans un monde heureux, il n'y aurait pas de la littérature. Au moins, je suis sûr qu'il n'y aurait pas de roman. Peut-être la poésie un peu est très mauvaise, mais du roman n'existait pas. C'est-à-dire, un peu le romancier, l'écrivain vit sa nourriture, c'est les conflits, c'est la douleur, ce sont les crises. Et un peu, nous sommes comme des animaux, un peu comme les journalistes, en certain sens, des animaux carognaires, non? Le meilleur écrivain sont ceux qui transforment la douleur, les crises, l'horreur en beauté et en sens. Sont comme des alchimistes, vous savez. Les alchimistes voulaient transformer le fer en or. Le grand écrivain, ce qu'ils font, c'est transformer la douleur, les crises, l'horreur en beauté et en sens. C'est pour ça que la littérature, c'est indispensable.
Des alchimistes. Et vous le disiez, vous l'écriviez déjà dans L'Imposteur, Javier Cercas, hein, la fiction sauve, la réalité tue. Ça veut dire que de cette crise, vous allez vous emparer, peut-être un peu plus tard.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'insiste à la grippe espagnole. Les traces littéraires sont directes, sont très très minces. C'est très peu. Mais les traces indirectes, on ne sait pas. C'est-à-dire, j'insiste que le mauvais, c'est bon pour la littérature. Si dans mes livres, cette pandémie sera un sujet de mes livres, je ne sais pas aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne pense pas que... Je ne sais pas. La réponse, je ne sais pas.
Il y aura un avant et un après peut-être aussi pour l'écrivain. Aujourd'hui, la France et l'Espagne, Javier Cercas, commencent leur déconfinement. Coiffeurs, librairies, bars. Quel sera le premier commerce que vous allez honorer à sa réouverture?
Vous savez une chose, je ne me trompe pas, à la France, les librairies étaient ouvertes dans le confinement.
Non.
C'est vrai ça?
Non, elles étaient fermées, comme chez vous.
Ouais. Alors, j'ai des...
Contre, les kiosques à journaux étaient ouverts.
Oui, en Espagne aussi. Mm. Ah, en Espagne aussi. Je ne sais pas, qu'est-ce que serait la première... je ne sais pas. Non, je n'ai pas pensé à ça. Je ne suis pas très consumiste, la vérité. Peut-être une librairie, mais je suis en campagne. Les librairies sont lointaines, je ne sais pas. Mm. Non. Le confinement a commencé un peu avant. Ça sera très long. Je pense qu'en France, ça sera la même chose, non? On fait partout. Mais le déconfinement sera très lent, c'est une chose très lente, très. On le fera très doucement et par province, en fait. Pas par autonomie, mais par province. Et bon, on verra qu'est-ce qui se passe, mais je crois qu'il faut être très prudent.
Il y a un besoin aujourd'hui d'information à travers la presse, il y a un besoin de culture aussi, de livres, de littérature, une culture qui pour l'instant se fait virtuelle, participative, des expériences collaboratives. Il s'en avance un peu partout dans le monde et en France aussi. Je vous propose d'écouter quelques notes de cette javanaise toute particulière de Serge Gainsbourg.
Avant d'avoir une forme de fou, mon amour, ne vous déplaise. En dansant la javanaise, nous aimerons le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu? La vie ne peut être vécue sans amour.
d'être vécu sans amour. Tel était le message délivré samedi soir sur France Musique par plus de 600 participants anonymes qui ont mêlé leur voix à celle de Jane Birkin, principale interprète de Serge Gainsbourg. Enregistrée et filmée chez eux, cette javanaise montée et mixée par les techniciens de Radio France. Elle est à réécouter, si vous le souhaitez, sur le site de nos camarades de France Musique. Elle tourne aussi sur les réseaux sociaux. Et pour l'heure, vous écoutez La Grande Table, il est 12h16.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Avec notre invité, l'auteur catalan des Soldats de Salamine et du Monarque des Ombres et d'un livre pas encore sorti en France mais qu'on attend très prochainement, Terra Alta, sorti à l'automne dernier en Espagne, une enquête en Catalogne après les attentats meurtriers d'août 2017. Notre invité, Javier Cercas, qui correspond avec nous, dialogue, échange en direct et virtuellement grâce à la technique, puisqu'on ne peut se voir pour l'instant mais on peut s'entendre, et vous nous disiez que pour l'instant, vous allez bien et on en est ravis. Un mot de l'Espagne, de la situation du pays autour de vous. Quelle Espagne la crise a-t-elle révélé, Javier Cercas ? Désunion, solidarité, quelles forces, quelles faiblesses de votre pays sont apparues ?
Bon, je dirais que la réaction populaire a été surprenamment bonne, au moins pour moi. C'est-à-dire, vous savez, les clichés de l'Espagne anarchiste, l'Espagne, tout ça. La vérité, c'est que dans une situation d'émergence sanitaire complètement inouïe pour nous, les gens ont resté à la maison, ont fait ce que les autorités disaient. C'était une situation énormément exceptionnelle et les gens ont réagi, je dirais, très bien. Mais du point de vue politique, a été un peu le contraire. C'est-à-dire, c'est une évidence que dans une situation comme cette situation, la réaction devait être des forces politiques et les territoires devaient être des absolues, unions. Je pense souvent à cette phrase qui a dit Abraham Lincoln. On attribue souvent cette phrase à Abraham Lincoln, mais apparemment, c'était une phrase populaire. Il était un paysan, vous savez, d'origine. Et il disait, la phrase c'était « Never swap horses while crossing a river or while crossing a stream », c'est-à-dire « Pas changer des chevaux quand on passe le fleuve ».
Il ne faut pas changer d'idée en cours de route. C'est un peu cette idée-là.
Oui, exactement, plus ou moins. On peut, sans doute, en français, il y a des phrases populaires comme ça. Et c'est-à-dire, c'est une raison pour être pour l'unité. Je crois que dans beaucoup de pays, ça s'est passé, en général. J'écoutais M. Mélenchon en France, qui est en critique très dure de M. Macron, dire qu'on doit être tous ensemble. J'écoutais des choses semblables à Portugal. Mais en Espagne, on doit dire que l'opposition de droite et certains territoires, en particulier les gouvernements catalans, ont été complètement insolidaires. Ça, c'est dommage, non ? C'est pas une bonne idée. Je crois que le gouvernement... Bon, je crois, non, j'en suis sûr, le gouvernement espagnol a fait des erreurs, mais c'est pas le moment de discuter ça, c'est pas le moment... C'est le moment d'être ensemble. Et quand la crise est finie, alors critiquer tout. Et alors, s'il faut finir avec le gouvernement et si le gouvernement perd les élections, que c'est normal, non, dans une crise comme ça, que les gouvernements sont touchés. Alors, c'est le moment, mais pas dans ce moment. Alors, je vois ce contraste entre la bonne réaction populaire, citoyenne, et la mauvaise, ou presque mauvaise, réaction politique.
Voilà, la désunion au niveau national et au niveau aussi des régions. Vous avez signé avec des milliers de personnalités anonymes et des personnalités connues, des organisations aussi. Le réalisateur Pedro Almodovar, l'actrice Vicky Peña, un manifeste, un appel à l'unité et à la solidarité pour gagner cette bataille contre l'épidémie, contre le Covid-19. Est-ce que vous avez été aussi marqué? Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui par la voix retrouvée forte d'un parti comme Vox, parti d'extrême droite? Est-ce que vous craignez pour la démocratie et craignez la montée des populismes?
Je crois qu'on doit, pas seulement en Espagne, mais partout. Ça, c'est un danger évident. C'est-à-dire, et ça c'est pas une opinion, c'est un fait. C'est-à-dire, le fait historique, c'est que quand il y a des crises très fortes, la tentation, c'est le repliement nationaliste. Ou les replis nationalistes. Et c'est un peu partout, ça. C'est-à-dire, si vous pensez 1929, la grande crise, non, qu'est-ce que ça a provoqué? A provoqué un repliement nationaliste partout, en Occident, en Europe, radical, qui s'appelait, disons, fascisme. Non, ça a été la forme radicale du nationalisme qui a abouti finalement à la Deuxième, à la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé aux années 2008 avec la grande crise de 2008, seulement comparable à celle de 1929? La même chose, plus ou moins la même chose, c'est-à-dire un repliement nationaliste qui a provoqué ce qu'on appelle, pas le fascisme, mais ce qu'on appelle national-populisme, qui en fait c'est une masque, c'est une transformation historique du fascisme et qui a des manifestations différentes dans les différents pays, vous savez, non, un peu comme le fascisme, c'est-à-dire c'était pas la même chose le nazisme que le fascisme italien, que le falangisme espagnol. Et alors en 2008 c'est passé la même chose, c'est-à-dire on a monsieur Donald Trump au pouvoir en Amérique, America First, et on a Salvini en Italie, on avait madame Le Pen en France, on a partout, et en Espagne on a eu Vox et on a eu les nationalismes catalans, les radicaux nationalismes catalans et tout ça. Alors, ça c'est la question aujourd'hui. C'est-à-dire, la seule façon en Europe de lutter contre ça, selon moi, la meilleure façon de lutter contre ça, c'est l'union de l'Europe. Et alors, ça c'est la grande question aujourd'hui. La première réaction de l'Europe, de l'Union européenne, a été, comme toujours, mauvaise, médiocre, c'est-à-dire s'occuper la vie. Ça a été la première réaction. Et après, je veux dire, les banques centrales, les leaders nationaux, tout ça. Et après, la réaction a été un peu meilleure et aujourd'hui, on verra. Mais ça, c'est la grande question. Et on va vers une Europe fédérale où on reste, ou encore, on va en arrière. Et on retourne aux vieux nationalismes qui ont provoqué la guerre, qui ont provoqué la destruction de foi de l'Europe. Et que, selon moi, je répétais beaucoup de fois, l'Europe unie, c'est la seule utopie raisonnable qu'on a inventée en Europe. Utopie parle dans le sens de que c'est impossible, mais au contraire, comme idéal, disons. Non, et je pense ça, exactement. C'est-à-dire, c'est la seule chose qui peut sauver la paix, la concorde, la prospérité et la démocratie en Europe. Mais dans une crise comme cette, comme la crise du coronavirus, on doit être très préoccupé pour ça, parce que on ne sait pas qu'est-ce que ça peut provoquer. Sans doute, a déjà provoqué un repli. C'est-à-dire, des choses très évidentes a été le retour de l'État dans cette crise. Et on verra, ça dépend de citoyens européens.
Voilà, cette Europe, une fois encore, mise à rude épreuve, cette seule utopie raisonnable telle que vous l'avez souvent répétée et défendue, vous espérez aujourd'hui qu'elle sera demain plus à la hauteur qu'elle ne l'a été hier. On l'avait reçu à l'automne dernier, Javier Cercas, pour son histoire d'une baleine blanche. Il s'était glissé dans la tête de Moby Dick, l'auteur du vieux qui lisait des romans d'amour, l'écrivain chilien Luis Sepúlveda, s'est éteint le 16 avril dernier en Espagne, des suites du Covid-19. Pour Arte, il racontait, il y a 10 ans, ce à quoi il tenait le plus.
Je ne pourrais pas vivre loin de la mer. J'ai grandi au Chili. Avec 5000 km de côte, la mer est toujours très proche. C'est une présence constante. J'ai beaucoup de mal à vivre sans entendre le murmure de la mer, sans avoir le bruit des vagues dans les oreilles. La mer n'a pas de limite, ne t'emprisonne pas. C'est une invitation à embarquer, prendre le large, changer d'horizon. On s'entoure tous d'objets fétiches quand on travaille. Mais moi, il faut que je bouge. Si je reste trop longtemps au même endroit, je commence à étouffer. J'ai besoin de sortir, de prendre l'air. À ce moment-là, je tire le signal d'alarme, comme ça. Et je sors.
Et je sors lundi 11 mai, début du déconfinement en France et en Espagne, où réside notre invité jusqu'à midi et demi, l'écrivain Javier Cercas. Que c'est bon d'entendre ou de réentendre cette voix, celle de Luis Sepúlveda, l'écrivain du bout du monde, un film réalisé par Sylvie Deleul, dont vous venez d'entendre un extrait, quitte à voir sur arte.fr jusqu'à la mi-juillet. Ce soir à 19h, son éditrice Anne-Marie Métellier lui rendra hommage dans le cadre des Assises internationales du roman, notre partenaire toute cette semaine, une édition virtuelle à retrouver en direct sur villageillet.net. Javier Cercas, et vous, où, quand, comment vous sentez-vous vraiment dans votre élément? Loin de quoi vous ne pourriez pas vivre?
Ah, je ne sais pas. Vraiment, j'écoutais cette parole très émouvante. Je connaissais Luis Sepúlveda. Et je vis près de la mer. Et c'est vrai que la mer, c'est très spécial. Sans quoi je ne pourrais pas vivre? Je sais pas, je ne peux pas imaginer moi-même sans livre, non? C'est sans lire. Je ne me souviens pas quel est le premier livre que j'ai lu, et je ne veux pas savoir quel sera le dernier livre que j'ai lu. Alors, pour moi, la littérature, c'est une forme de ma forme de d'être heureux. Alors,
pour comprendre cette période, pour résister dans cette période, vous vous êtes entouré de livres.
Je suis toujours entouré de livres, oui, parce que j'aime le livre et j'aime la littérature. Et je pense souvent, vous savez, on dit ces jours, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette crise? Et vraiment, j'insiste, on peut apprendre énormément de choses du point de vue politique, du point de vue moral, du point de vue personnel. Le problème sera si nous serons capables d'apprendre ça comme collectivité. Mais vous savez, j'ai pensé, on m'a demandé, comme tous les écrivains, qu'est-ce que vous lisez ou qu'est-ce que vous recommandez. Et j'ai pensé souvent à un écrivain français que je n'ai pas connu personnellement, il est mort récemment, et que j'aime beaucoup. Je suis un vrai fan, j'aime beaucoup ses livres, et je crois que je lis tous ses livres. C'est un philosophe qui s'appelait Clément Rosset. Et je recommande toujours, pour moi, son sujet, son vrai sujet, c'est la joie de vivre. Non, je recommande toujours ce livre qui s'appelle La Force Majeure. Et pour moi, c'est peut-être le centre de son œuvre. Et le centre de sa pensée, ça, c'est le fait que la réalité, c'est très dur. Et on le voit aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent. Et plus de 25 000 morts en Espagne, plus de 25 000 morts en France. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui vont perdre son travail, etc., etc. Mais nous sommes vivants. C'est un vrai miracle.
Il va falloir rechercher le bonheur, Javier Cercas, à travers ses lectures, à travers la vie, à travers le contact qui va se renouer avec l'autre, qui n'est pas cet ennemi invisible. L'autre n'est pas une menace. Il va falloir essayer de se retrouver. Ça sera le temps d'après. Aujourd'hui, vous avez été avec nous et on vous remercie d'avoir ouvert cette semaine de grande table. Merci aussi à Oriane Delacroix, à Laura Dutèche-Pérez et à Henri Leblanc qui prépare de chez eux, avec l'aide précieuse de Philomène Vuillard et de Marceau Vassy, cette émission. Demain, rendez-vous avec un nouvel invité. Merci Javier Cercas. France Culture, il est midi et demi. Dans quelques instants, rendez-vous avec Bruno Duvic pour une édition interchaîne jusqu'à 13h30 avant de retrouver Les Pieds sur Terre.